Vous êtes sur RDWA à l'écoute sur le 107.5 FM et sur le site www.rdwa.fr. Aurélie, pour vous servir, bienvenue donc aujourd'hui dans ce numéro 2 d'Histoire et de Contes avec Marina Chenet. Donc la semaine dernière, nous avons entendu 3 de ses premiers contes. Je vous invite à écouter ces 2 prochains et derniers. Donc à l'écoute aujourd'hui, le héron et le violoniste, et pour terminer, le coq et le soleil. Nous aurons bien sûr une petite discussion avec Marina autour de ces 2 contes. Tu veux en parler avant ?
Alors, je peux en parler avant, oui, si vous voulez. Alors, celui-là, c'est le héron et le violoniste. J'avoue, c'est mon petit préféré. Il est assez imagé, mais il a un sens très profond. Et je pense que tous ceux qui écouteront ce conte trouveront un sens complètement différent, que chacun pourra s'approprier. Mais voilà, il veut dire beaucoup de choses. Donc, le héron et le violoniste. Dame, dame, dé, dame, dame, olé, olé. Connaissez-vous cette chanson ? Des cours de récréation que chantent en chœur les enfants en se tapant dans les mains ? Plume, le héron, l'écoutait tous les matins. Immobile, perché sur une patte depuis sa berge, non loin de l'école. Dans ce monde où tout était encore en noir et blanc, les sons, les chants, les bruits, étaient des trésors et des douceurs de toute beauté. Ainsi, le héron pouvait rester des heures les pieds dans l'eau, à écouter. À écouter le clapotement des vagues sur les rochers, le souffle du vent qui secouait les feuilles des arbres. Le rire des enfants le touchait particulièrement. Mais il aimait plus que tout le son du violon d'un vieil homme qui jouait tous les soirs près de lui. Lorsqu'il s'installait sur son banc, l'oiseau s'envolait et se posait non loin de lui, tout doucement, afin de ne pas se faire entendre. Mais l'homme avait l'ouïe fine. Il faisait mine de rien. Il ne pouvait s'empêcher un sourire d'entrouvrir ses lèvres, et mélodieusement, il commençait à jouer. Jouer. Le mot était si faible. La musique qui sortait de ce violon envoûtait tous les environs et charmait le héron par sa pureté. Il restait des heures à l'écouter, jusqu'à ce que fatigué, le vieil homme range son instrument, reprenne sa canne et rentre chez lui. À ce moment, Plume déployait ses ailes et retournait se coucher sous une aurore grise et blanche. Tous les soirs, il revenait pour jouer. Et tous les soirs, le héron se posait à ses côtés pour l'entendre. Si bien qu'au fil du temps, une amitié sincère se créa entre eux. Jamais ils n'échangèrent un mot. Pas une seule fois le musicien ne tendit la main vers lui pour toucher son plumage blanc. Mais quelque chose vibrait entre eux. Une magie, une mélodie, une chaleur. Le lendemain, le jour se leva. Plume fut réveillée par le chant des rossignols et profita de sa journée comme tous les jours, attendant le moment où le vieil homme arrive pour lui jouer un brin de violon. Au moment où la cloche de l'école sonna la fin des cours, le rire des enfants envahit les rues et l'oiseau se prépara à la venue de son ami. Mais il ne vint pas, ni ce soir-là, ni celui d'après. Plume s'inquiéta de ne plus le voir pendant une semaine, puis deux, jusqu'au moment où il fut réveillé de sa torpeur par un objet en bois qui lui heurta les pattes, poussé par le courant. C'était un violon, celui du vieil homme. Étonné, il le ramassa et le posa dans son nid vide. Puis il scruta la berge et aperçut le vieil homme effondré sur son banc, le visage et les mains couverts de pansements. Soulagé de le revoir, il s'envola à sa rencontre. Le vieil homme ne releva pas la tête lorsqu'il arriva. Il ne réagit pas non plus au son de son atterrissage. Le héron, étonné et touché par cette détresse, tenta de comprendre. Et de son bec, lui toucha la joue. Doucement, comme une caresse. Le vieil homme réagit enfin et se redressa à sa hauteur. Son sourire bienveillant avait disparu, et dans son regard rempli de larmes, une infinie tristesse. D'un geste, il lui montra ses oreilles et ses bandages. Il était devenu sourd. Il ne pouvait plus jouer ni entendre la musique et les sons du monde. Ce monde, tout de blanc et de noir, n'avait plus aucune saveur sans mélodie. Au moment de se relever pour repartir, Plume soutenut son regard quelques minutes. Il espérait de tout son cœur qu'il reviendrait tout de même tous les soirs, pour lui tenir un peu compagnie comme avant. À la nuit tombée, le héron pria la lune de l'aider, si seulement il pouvait trouver un moyen de lui redonner goût à la vie. Il pria toute la nuit, perché sur une patte, luttant contre le courant de la rivière, promettant à la lune qu'il était capable du plus grand des sacrifices pour y parvenir. Le matin arrivant, il ouvrit les yeux et fut surpris de ne pas entendre chanter les rossignols, ni le clapotis des vagues sur les rochers. Paniquant, il tapa l'eau de ses grandes pattes sans entendre le moindre son. Il lui semblait que l'enfer et un gouffre sans fond s'ouvraient en lui. Voulant fuir sa peur, il s'envola en toute hâte le plus haut possible. Il comprenait à présent ce que ressentait son ami, lui qui, en plus jouait tous les jours, se retrouvait privé de sa passion. Il était complètement perdu, ne sachant plus que faire. Alors qu'il cherchait son ami du regard dans les rues de la ville, une sorte d'éclair étrange attira son regard. Dans la cour d'école, des sortes de lumières sortaient de la bouche des enfants. Mais pas une lumière blanche, comme il en voyait de partout. C'était de la couleur. De la couleur ? Ce mot lui-même était inconnu. Il n'en avait jamais vu jusqu'à maintenant. Les couleurs, c'était dans des rêves. Il n'y en avait jamais eu dans ce monde en noir et blanc. Il avait envie d'appeler celle-ci orange. Une pure merveille. Quelle chaleur ! Il s'approcha des enfants pour mieux la voir, et voilà en cercle tout autour de la cour, apercevant d'autres couleurs à la place des sons. Du rouge s'échappait tel des ondes rapides et courtes des mains qui se frappaient les unes dans les autres. La cloche sonna, des ondes jaunes en sortirent. Envahis de toutes ces superbes étincelles, les yeux du héron s'émerveillèrent. Du ciel, il fondit en piquet vers les enfants et attrapa au vol un peu de orange sorti de leur champ avec son bec. Puis il l'étala sur le toit de l'école qui en prit la nuance. Le résultat était stupéfiant. Il décida de parcourir la ville et les rivières afin d'en capturer toutes les nuances, toutes les couleurs possibles afin d'en avoir une palette complète. Au fur et à mesure qu'il les collectionnait, il les cachait dans le violon. Sa quête dura toute la journée et le soir venu, le vieil homme revint s'asseoir sur son banc, toujours aussi triste. Plume le rejoignit, le violon entre les pattes. L'ancien regarda son ami tristement et écrasa une larme silencieuse. Tous deux, noirs et blancs, tous deux, en silence, ils s'observèrent un moment, le temps en stand-by. Puis le héron plongea son bec dans l'instrument et sortit une brume verte. Sous les yeux stupéfaits de l'homme, l'étala dans l'herbe. La couleur se répandit tel un nuage avec le vent sur tous les bords herbeux de la berge. L'ancien eut à nouveau une larme, mais de bonheur et d'émerveillement cette fois. Jamais il n'avait vu une si belle chose. Tremblant d'émotion, il prit son instrument et se mit à jouer. Non pas une mélodie pour eux, mais un arc-en-ciel. Il ria à grand éclat en voyant ce miracle. De sourire s'échappa une autre couleur, un orange aveuglant qui s'envola directement vers le soleil pour les illuminer de chaleur. L'homme se mit ainsi à jouer, jouer encore et encore des musiques si gaies qu'elles donnaient le sourire à tout le monde, d'autres fois si tristes que les spectateurs se resserraient les uns contre les autres pour se réconforter. Pendant ce temps, le héron colorait le monde avec tout ce que le musicien créait. C'est ainsi qu'ensemble, y rendirent le monde plus beau qu'il n'eût jamais été. Et s'ils mirent si peu de couleurs à la lune et à la nuit, ce fut une demande de celle-ci qui souhaitait rester la discrète confidente des plus démunis et permettre aux plus fatigués de se reposer un peu. L'amitié de ces deux êtres fut éternelle. Jamais ils ne retrouvèrent Louis. Mais la vue qu'offraient les miracles de la nature les comblait tout autant que les sons dont ils se nourrissaient auparavant.
And the last one.
Alors, celui-là, c'est le coq et le soleil. Donc, encore pour un ami.
Décidément, tes amis, ils en ont de la chance.
Eh oui. Oui. Mais pour mes comptes, je m'inspire toujours de mes amis. Je m'inspire de mes amis, de ce qu'ils me font penser. Et souvent, ces amis me font penser à un animal. Voilà, je me dis, tiens, lui, il me fait penser à un panda. Lui, il me fait penser à un coq. Et donc, du coup, j'ai envie de... Ça m'inspire des histoires, ça... Et voilà. Donc, le coq et le soleil. Il y a fort longtemps, le soleil se levait seul. Tous les jours, ou plutôt tous les matins. Il se levait, contemplait le monde... dans toute sa beauté. Il apportait la lumière, la chaleur et la joie à son apparition. Les animaux se réveillaient rien que pour profiter des couleurs timides et douces de son arrivée et se réunissaient le soir pour contempler ses superbes peintures flamboyantes de son coucher. Ensuite, la lune prenait sa place, froide et pâle, éclairant juste assez pour permettre aux renards et aux hiboux de chasser sournoisement leur proie. Un jour, dans une basse-cour, un œuf de poule roula hors de son nid et tomba dans un trou, loin du regard de sa mère. Lorsqu'à son lever, le soleil se rendit compte, il souffla délicatement sur lui afin de lui assurer chaleur et protection. Tout au long de son développement, l'astre veilla sur lui le jour et, avant d'aller se coucher pour le protéger de la nuit, lui laissait un petit rayon de soleil. L'œuf éclos à l'aube d'une journée d'été et chanta en reconnaissant son astre protecteur. Depuis ce jour, jusqu'à ce qu'il devienne le plus beau des coqs, il chantait aux premières lueurs du jour pour fêter son arrivée. Cet oiseau était si beau qu'il faisait la fierté du fermier. Il l'avait appelé Riquito. Son plumage était un panaché de rouge, de jaune et de roux. Sa voix puissante s'entendait de loin et annonçait au monde l'heure de se lever. Lui seul pouvait regarder le soleil sans se brûler les yeux, et très vite il devint célèbre et aimé de tous. Les prétendantes étaient nombreuses à chercher son attention, et son étoile, jalouse, commença à craindre de se coucher, de peur de perdre de vue le seul être qui chantait son arrivée, le seul qui, depuis des éternités, lui faisait honneur chaque jour. Occupée par toutes ses parades et à chanter à tout vent, pour les poules et tous ceux qui étaient là pour l'écouter, il finit par en oublier son étoile, ne chantant plus que pour ceux qui étaient là pour l'acclamer et l'admirer. Le soleil fut si blessé par cet abandon qu'il ne put se relever, laissant à la lune la possibilité de régner seule sur la terre. Ainsi, la nuit tomba, le froid s'installa et la terreur s'empara de leur cœur. Au début, plein de bonne volonté, les animaux de la ferme acceptèrent de rationner les denrées données par le fermier et avec solidarité s'aider les uns les autres. Au bout de plusieurs semaines de nuit, la tension et la faim commencèrent à monter. Sans oublier les renards et les hiboux qui tournaient autour d'eux, que le fermier épuisé ne pouvait plus tenir à l'écart. Un jour d'orage. Un grand-duc entra dans la grange afin de s'attaquer à la volière. Riquito s'interposa et se battit de toutes ses forces pour le faire reculer. Vexé, le grand-duc s'envola, mais annonça à la basse-cour que le soleil ne reviendrait jamais. La lune lui avait dit que Riquito l'avait trahi et qu'il était responsable de sa perte. Le coq n'en revenait pas. Les autres lui lancèrent de regards assassins et l'exclurent de la ferme avec rage. Riquito se sentit seul pour la première fois de sa vie et se sentant fautif, se mit à chanter, encore et encore durant des heures. Mais le soleil ne répondit pas à son appel. Tristement, il retourna vers le trou où en tant qu'œuf il s'était développé et y retrouva ses coquilles, encore intactes et rougeoyantes. Curieux, il plongea dans le trou et les avala. Elles étaient brûlantes comme le feu et il se sentit se consumer de l'intérieur. Il se remit à chanter pour tenter d'oublier la douleur infernale qui l'envahissait. On parle souvent de la beauté du chant des cygnes avant de mourir. Mais ce n'est qu'un murmure inaudible à côté de ce que faisait le coq en ce moment. D'un coup, il s'enflamma totalement dans un brasier ardent jusqu'à devenir cendre. Pendant quelques heures, le silence. Le noir absolu. Même la lune, effrayée, était partie. Il n'y avait plus rien. Plus de froid, ni de chaleur, ni de bruit, ni de lumière. Le monde entier se cachait, attendant la suite. Que quelque chose arrive et rompe ce silence angoissant. Un bruissement d'ailes, un piou-piou timide, une petite tête enflammée sortie du tas de cendres, un poussin, minuscule, entièrement fait de flammes, prit son envol vers le ciel, étant la seule source de lumière dans ces ténèbres. Tout en volant, il se mit à chanter et à grandir, jusqu'à devenir un oiseau majestueux rayonnant. Les animaux et les hommes sortirent de leur tanière pour l'admirer et l'applaudir. Mais l'oiseau se rendit directement vers le ciel et chanta pour son étoile des heures durant jusqu'à son retour. Et le jour revint. Depuis, tous les coqs annoncent l'arrivée du soleil à l'aube. Des fois même un peu avant, par peur d'oublier, quitte à prendre le risque de recevoir une savate du fermier dans le bec. Quant à Riquito, le phénix, il resta pour toujours avec son étoile. Lorsque le soleil fait son tour de la terre, on pourrait le voir voler à ses côtés si nous n'avions pas si peur de nous brûler les yeux.
Bravo, bravo Marina. On peut peut-être te présenter un petit peu plus. Tu pourrais parler de toi un peu ?
Eh ben, je suis bénévole à la gare à coulisses, donc Transexpress, pour aider à faire les spectacles. Et puis à côté de ça, je suis en formation d'AMP, aide médico-psychologique, dans une maison de retraite où je fais des soins, de l'aide à la toilette et des animations l'après-midi. Où justement mes contes servent aux résidents et aux enfants qui viennent les écouter. Et puis voilà, donc quand j'écris des contes, c'est toujours pour des amis qui sont ma plus grande source d'inspiration. Et mes amis, et puis beaucoup aussi les légendes des pays. À chaque fois, les contes que j'écris se font dans un lieu différent. Dans un pays différent, et à chaque fois les noms utilisés pour les personnages sont dans la langue justement des pays où se passent les aventures. Donc l'abeille et l'éléphant se passent en Inde, donc Asa, le nom de l'éléphant, veut dire espoir, Lalasi veut dire cupide, le conte du coq et du soleil se passe en Hongrie, où Riquito veut dire flamboyant. Les pandas se passent en Chine, donc le nom de la panda, ça veut dire sagesse, et l'autre, ça veut dire courage. Ensuite, celui du garçon qui voulait capturer le vent se passe dans le Vercors, Nomen, qui est un nom gaulois, veut dire ciel, enfin, Voilà, à chaque fois, il y a quand même de grandes significations. Et rien n'est laissé au hasard. Voilà.
Et comment te vient cette passion du conte? Alors, on t'a lu des histoires ou tout simplement parce que tu es curieuse et t'es allée fouiner un petit peu dans les bouquins?
J'ai toujours beaucoup lu. Voilà. Depuis que je suis toute petite, je suis passionnée par tout ce qui est contes et légendes. Donc tout ce qui est mythologie, la mythologie viking, balkan, grec, ancienne, enfin vraiment tout. Et c'est un moyen de m'évader, d'écrire. Et puis voilà, j'ai un esprit un petit peu rêveur et mon esprit se balade assez souvent. Et quand j'écris un conte en général, je commence à écrire un conte et je connais jamais la fin au moment où j'écris. Donc j'ai une idée, j'ai des personnages et je commence à l'écrire et j'écris tout d'une traite. En général, je mets 3-4 heures à l'écrire. Je commence à 10h du soir, je finis à 2h du matin. Mais j'arrive pas, des fois j'essaie, je me dis je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Alors j'arrête le conte, je vais me coucher et puis au bout d'une demi-heure, je me relève et j'y retourne. Parce que tant que c'est pas fini, je peux pas quoi. Et des fois je suis surprise parce que la fin que j'écris était pas du tout ce que j'avais prévu. C'est un peu comme un tableau.
Je vois Gwen qui corrobore tes faits, connaît bien le problème et c'est lui aussi un insomniaque qui est... tu peux peut-être en parler Gwen puisqu'on te recevra quand même dans d'histoires et de contes, excuse-moi.
Oui, tout à fait. Oui, non mais effectivement, je corrobore les dires de Marina parce qu'effectivement, moi c'est souvent comme ça. Tu commences l'histoire et puis d'un coup tu écris une phrase et là ça prend un angle qui n'était pas prévu et ma foi tu te laisses aller, donc effectivement, enfin tu te laisses aller façon de parler bien sûr. Mais voilà, non, mais c'est vrai que bon, après moi je fais pas vraiment dans le conte, hein. Moi c'est plutôt dans la nouvelle ou dans le roman, donc à un moment je dois m'arrêter parce que j'ai une vie sociale quand même et professionnelle qui fait que je ne peux pas me lancer 24/24. Mais oui, et puis moi j'avoue que par contre, si j'écris, j'ai besoin quand même d'une ambiance, donc musique ou film. C'est souvent ça qui est quand même nécessaire. Alors c'est vrai que pour te rejoindre, effectivement, tout ce qui est nom, prénom, lieu, moi c'est obligatoire de faire de la recherche. Quoi. Je peux pas appeler un personnage Stéphane, c'est pas possible.
Ouais, c'est très compliqué.
Ouais, c'est ça, c'est obligatoirement, il faut qu'il y ait quelque chose, c'est porteur. Mais en même temps, c'est tout à fait normal puisque je m'appelle Gwen et que Gwen c'est breton. Et que effectivement, quand t'es natif de la Loire du 4-2, effectivement, tu commences à te demander d'où ça vient et le comment du pourquoi, et que là, tu commences à faire les légendes bretonnes. Donc évidemment, tu glisses un peu sur les Scandinaves. Bon, il y a du Tolkien qui traîne un petit peu par là. Donc effectivement, et là, tu commences à créer. Et c'est vrai que moi, j'ai un besoin nécessaire qu'on ne puisse pas m'attaquer sur ce que j'écris. Donc, il est plus facile de créer un monde où c'est toi qui régis tout, que de faire des recherches où là, effectivement, moi, je ne suis pas un esprit très scientifique, donc effectivement, tout ce qui est Asimov ou compagnie, moi, ça, je ne pourrais pas.
J'ai une question. Quand tu écris des nouvelles, toi, est-ce que quand c'est terminé, tu y retravailles dessus?
Ouais. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'il y en a certaines où, effectivement, techniquement je ne suis jamais content mais voilà, mais il y a des fois où je laisse, parce que j'en avais parlé avec Lily sur une pièce de théâtre, et effectivement je l'ai laissé plusieurs années, je l'ai retravaillé par le biais d'un autre personnage qui était, je dirais pas laissé pour compte, mais qui n'avait pas cette importance. Et effectivement, le fait d'avoir une certaine maturation et aussi effectivement une évolution, hein, puisque je veux dire, on grandit tous et qu'on vit aussi certaines histoires, fait que effectivement, tu retravailles dessus et la ligne que tu avais donnée, et ben ma foi, tu peux la mettre en angle ou trouver une certaine courbe qui est quand même plus alléchante que celle qui était un peu trop simpliste au début.
En étant que lectrice, en tout cas, je suis ravie puisque moi, à chaque mot que je lis, je découvre l'histoire et le fil. Et visiblement, vous, c'est pareil, sauf que ce mot, vous l'écrivez et il sort de vous. Mais vous découvrez aussi au fur et à mesure l'histoire ou voilà, la ligne directrice, je ne sais pas comment, le scénario.
C'est ça.
Ouais, le synopsis.
En tout cas, je vous remercie tous les deux, hein, d'avoir participé à ce numéro. Marina, un grand merci à toi d'être venue nous offrir ça. Nous avons la primeur des textes, des premiers textes radiophoniquement exploités. Et merci pour ça, Marina. À mon avis, ce ne sera pas la dernière fois qu'on se reverra.
Avec grand plaisir.
À bientôt.
À bientôt.